Je suis surpris par votre jugement à propos du roi Hardclyde, lâcha-t-il avec une amertume qu'il ne chercha pas à dissimuler. Ce capitaine est aussi brutal qu'habile. Pour autant, est-il brillant? C'est un des sujets les plus malins avec qui j'ai devisé ces dernières années. Le chevalier se raidit, rattrapé par la jalousie et par un sentiment de scandale. Vous admettez donc que vous le connaissez? Eh bien, quoi d'étonnant à cela? La nonchalance avec laquelle cette réponse lui fut faite piqua Edan. Incapable de se contenir, il s'enferra un peu plus et devint de Belcastel. Fut-il aussi de vos relations? D'où vient que vous affichez cette mine étonnée? Voyez, son ouvrage est juste là. L'impudence de cet aveu ne fit que souffler sur les braises. Le chevalier se sentait de plus en plus indigné. Et vous savez naturellement que le premier de vos amis a assassiné le second. La jalousie pousse à de tristes extrémités, releva la dame avec légèreté. Vous ne me direz pas le contraire? Est-ce là tout le scrupule que ce meurtre vous inspire? Pourquoi en aurais-je? Qui pourrait donc me juger coupable dans cette sombre affaire? Ne confondez point la cause avec la conséquence. Avec une moue pleine de charme, la dame ajouta d'un air philosophe, en outre, ce malheureux devin avait perdu le feu, la jeunesse et l'insouciance. En somme, c'est une belle fin qui lui a été donnée, digne d'être chantée. Comment dois-je entendre vos paroles, dame? Faut-il comprendre que vous serez heureuse qu'on vous débarrasse de moi, quand je ne saurai plus me faire aimer de vous? Chevalier, de quoi me parlez-vous? Me voyez-vous comme une si grande débauchée? Ah, mon ami, vous confondez tout. Ni Ferbassac ni Devin n'ont été mes amants. Ils furent mes petits protégés. Tout enfant, ils avaient gagné le jeu du ruban. Voilà pourquoi je les ai gardés un moment à mon service au fond de mes forêts. Et il leur est ensuite prodigué des dons quand ils eurent l'âge d'être des damerets. Vous vous méprenez, mon ami. Jamais je ne les ai aimés comme je vous aime. C'était juste mes pages chéries. Une douloureuse incertitude se peignit sur les traits du sire de Vaumacel. Il paraissait partagé entre le doute et le désir de croire l'enchanteresse. À moi aussi vous avez accordé un don extraordinaire, dit-il avec élan. Et pourtant, je n'ai jamais été votre page. D'ordinaire, je n'aime que les petits-enfants, badina la fée. Vous êtes l'exception, chevalier. Vous avez fait mieux que gagner le jeu du ruban. Cette flatterie ne suffit toutefois point à endormir la défiance des Danes. À contre-cœur, conscient qu'il était préférable de ne pas envenimer la querelle, mais incapable d'étouffer ses soupçons, il proféra avec une raideur pleine de défiance « J'ai croisé au moins une autre exception. Au tournoi de l'Immortel, l'Enval de Bromel portait vos couleurs. Que je sache, lui non plus n'a jamais été votre page. » La disparition de l'héritier ducal dans son enfance eut fait grand bruit. La fée lui répliqua par un rire perlé. « Mais qu'allez-vous imaginer ?» se divertit-elle. « Le jeune Lanval est certes l'un de mes champions, mais il n'est nullement mon amant. Je n'ai pour lui que la plus innocente affection. Peu importe le jeu du ruban. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a perdu sa mère alors qu'il était petit garçon et que sa marâtre l'a éloigné de son père. Ayant pitié de cet enfant songe, j'ai eu tôt fait de m'improviser sa fée marraine, afin d'adoucir ses afflictions. Pour consoler son chagrin, je me suis faite reine de son âme et de ses rêveries. J'ai offert à sa tendresse un objet délectable pour remplacer la mère chérie. Me reprocherez-vous d'avoir été charitable? Même devenu pre-chevalier, Lanval reste dans mon cœur le filleul d'autrefois. Il n'y a là rien de bien sorcier. Je ne nie pas que le prince est amoureux de moi, mais à mes yeux, Il est pour toujours le pauvre petit garçon que j'allais mignonner dans la chambre d'une haute tour. » Les paupières à demi baissées sur ses prunelles smaragdines, elle ajouta d'un air gourmand « Le drôle de l'affaire était d'avoir distingué Ferbassac dans les mêmes années. J'avais ainsi pour pupilles les deux héritiers des plus farouches de vos lignées. Passer de l'un à l'autre était fort divertissant. J'ai même caressé le projet de favoriser la rencontre des deux enfants à l'occasion d'un grand jeu secret. Je m'en suis abstenu. Et c'est peut-être dommage. Ces garçons étaient si différents. L'entrevue était tentante, mais j'ai été sage et renoncé à l'amusement. » Cette confidence ne fit qu'accroître la confusion du chevalier. La légèreté avec laquelle la haute dame avait envisagé de mettre en présence les deux jeunes princes à l'insu de leur parenté avait quelque chose de profondément choquant. Ce n'était toutefois pas ce qui tourmentait le plus Edan. Ses facéties et ses raptes de la Lysandière, commis avec le plus parfait mépris pour les prérogatives des familles nobles, témoignaient de sa souveraine liberté. Si elle pouvait s'octroyer le caprice d'enlever et de séduire des enfants de lignée régnante, quelle morale l'empêcherait de tromper à sa guise un pauvre chevalier ? « Vous tirez toujours une tête longue d'une aune, » observa la fée avec humeur. « À croire que vous ne m'aimez plus. Vous voici sombre, comme si j'avais fait l'aumône en passant, de propos fort menus, alors que je vous confie ma vie la plus secrète. Pour tout vous dire, j'en suis froissé.
Pardonnez-moi, belle dame, si je parais douter de vous. »
« Paraître, dites-vous. Vous doutez, soyez honnête. »
« Ah, dame, qu'il est pénible et ridicule d'endosser le rôle du jaloux. Voyez, je ne nie pas l'évidence. Je suis sincère avec vous. Je doute, j'en conviens. Mais au vrai, je doute davantage de moi que de vous. Qui suis-je, en regard de ces hommes puissants ou illustres, avec lesquels vous avez noué des liens anciens et clandestins? Comment ne vous lasseriez-vous pas d'un simple chevalier, quand demain vous pourriez gouverner le cœur du roi Arclyde et celui du futur duc de Bromel?
Les 7 vies que je vous ai données ne suffisent-elles plus à prouver mon amour?
Le chevalier secoua la tête avec une expression défaite.
Ce don extraordinaire est vide de sens, dès lors que je brûle ces existences loin de vous.
Soupira-t-il.
En votre absence, le monde est d'une monotonie infinie. Je suis un être creux dès lors que je suis séparé de vous. Il me reste l'honneur et le service des armes. Mais mon intégrité et mes prouesses n'ont d'autre objet que d'être digne de vous. Or, j'ai passé tant d'années à me languir de vous. Cette longévité hors du commun se consume dans le regret et l'absence. Il n'y a qu'auprès de vous que je sens battre mon cœur, que je retrouve le goût de l'existence, que j'ai l'âme illuminée de joie.
Et l'air amer, Edan ne put s'empêcher d'ajouter
« D'ailleurs, ce privilège, me l'avez-vous vraiment donné par amour ? Ou s'agissait-il juste d'une tenure de vie accordée par la suzeraine à son vassal ? Si j'étais mort, que serait devenu l'enfant dont vous vous défiez tant ?
Vous broyez du noir, mon pauvre ami. Envisagez donc les choses sous un autre jour. Après tout, la tâche dont vous êtes investi vous lie à moi et me lie à vous.
Mais de si loin. Je suis au mieux le gouverneur du garçon, au pire, son gardien. La confiance que vous m'avez manifestée en me déléguant cette charge est davantage celle que l'on a pour un serviteur que pour un véritable ami.
L'objection indisposa la dame, qui leva au ciel ses yeux splendides.
« Mais c'est vous qui m'avez ramené le galopin !» s'écria-t-elle.
Je vous ai épargné mon courroux, je vous ai fait 1000 grâces, et vous êtes chagrin. »
Et redevenue tout miel, elle poursuivit d'une voix caressante.
« Comment avez-vous pu oublier l'immense admiration que je vous ai témoignée? Vous avez traversé sans danger, sans frémir, pour toucher à mes forêts enchantées. Certes, vous n'étiez pas le premier, mais vous veniez le cœur dénué de convoitise, au contraire de vos devanciers, mus par la cupidité et par la paillardise. Vos desseins étaient exempts de vice. Vous aviez entrepris ce voyage périlleux seulement par souci de justice. Chez les ducs et les rois, peu sont aussi vertueux. N'est-ce pas assez pour vous aimer ?»
Le compliment, toutefois, ne suffit point à rassurer le chevalier. Edan demeurait incertain et défiant, soupçonnant d'être flatté plus que loué, mais ne disait plus mot de crainte de jeter de l'huile sur le feu. La dame, interprétant peut-être ce silence comme une bouderie, montra des signes d'impatience. Les ombres s'amassaient sous la tente. Les bijoux de la lissandière prirent des reflets vireux, tandis que les rubis du reliquaire d'argent paraissaient saigner dans le clair-obscur.
« Et nous voilà en pleine querelle d'amoureux !» railla la fée. « À quoi bon ressasser le passé ? Car c'est aujourd'hui que vous jouez au malheureux.
Belle dame, vous m'êtes trop cher pour que je me livre à pareil jeu !»
murmura le sire de Vaumacel. « Eh bien, vous avez tort, chevalier. Jouer les sentiments est parfois plus agréable que les souffrir ou les cultiver. Un peu de légèreté vous rendrait plus aimable. »
Cette pointe ne fit que meurtrir davantage l'amant jaloux. Le reproche le cingla avec une force qui allait bien au-delà du poids des mots et ébranla la fragile maîtrise qu'il cherchait à exercer sur lui-même. La blessure lui parut plus vive qu'une estocade. Elle perça les scrupules dont il entourait encore ses soupçons et son discours. D'un seul coup, il eut l'impression que cette méchanceté venait de dessiller son regard, et il flaira une infamie dont il avait peut-être été la dupe des lustres durant. « Pourquoi m'avoir imposé la garde de Kell pendant toutes ces années ? » gronda-t-il.
« Oh, laissez donc ce drôle où il est.
Il se trouve justement que le drôle m'accompagne sans cesse par monts et par vaux, et cela pour votre bon plaisir. S'il était livré à lui-même, ce garçon serait certes dangereux. Hélas, j'en ai moi-même pâti jadis. Mais pourquoi m'en donner la charge ? Pourquoi me confier cette éducation interminable dont je ne suis pas certain qu'elle porte ses fruits ? En quoi cet enfant justifie-t-il le privilège si exorbitant que vous m'avez accordé ? Cela légitime-t-il de triompher du cours du temps et de ses accidents ?
N'était-ce point la solution la plus élégante ?
Pour vous assurer que le garçon ne puisse nuire, n'aurait-il pas été plus avisé d'user de vos pouvoirs sur lui plutôt que sur moi ?
Cela n'aurait pas eu grand effet. Ce mauvais plaisant est une engeance résistante.
Pour la même raison qu'il ne grandit guère, parce qu'il est à moitié elfe.
Le chevalier ne révéla pas le fond de sa pensée, mais il l'insinua de façon si incisive que la lissandière la saisit à demi-mot. Son visage ravissant fut parcouru par une expression singulière où s'égayait une surprise scandalisée. Et puis, elle partit d'un éclat de rire mélodieux dont les échos retentirent, pourtant sinistres, au fond des futaies voisines.
« Chevalier, vous passez les bornes. Vous vous égarez comme un jaloux de comédie qui, parce qu'il croit porter des cornes, a l'esprit débordant des pires ignominies. Mais qu'allez-vous donc imaginer ? Je n'ai rien en commun avec ce jeune coquin. Quelle sornette ! Vous m'insultez ! »
Et prenant une mine implacable qui aiguisa sa beauté, la lissandière déclara « Apprenez que cet enfant utile était le mien, je l'eusse étouffé à la naissance. Élève-t-on le louveteau dans la bergerie ? Mieux vaut un acte de malfaisance que de nouvelles guerres et d'innombrables tueries. Fort heureusement, ce demi-sang ne m'est pas lié. Je l'ai chassé. Bon débarras.
Si ce n'est pas le secret de sa naissance qui lui vaut votre défaveur, quelle faute a-t-il commise pour que vous le teniez ainsi en horreur ?
Il ignore qui sont ses parents, ou du moins le prétend. Je l'ai cru de bonne foi, et je l'ai accueilli avec cœur une fois qu'il a remporté le jeu du ruban. Mais c'était un petit imposteur, qui comptait parmi ses aïeux quelques belles gens. Or, la règle est que seuls les humains sont admis à jouer pour gagner le privilège de flâner au fond de mes jardins. Transgresser l'usage est sacrilège. Cela menace les fondements de l'harmonie et sème l'ivraie parmi les fleurs. Qu'elle fût délibérée ou non, la tricherie était grosse d'horribles malheurs. Voilà pourquoi j'ai banni l'odieux impertinent.
L'explication ne parut guère convaincre le chevalier, qui attendit quelques instants que la dame développât un peu plus ses raisons. Mais comme un silence oppressant s'alourdissait dans le pavillon obscur, où l'on n'entendait plus bruire les feuillages ni chanter les oiseaux, le sire de Vaumacel reprit la parole.
« Je suis perdu, dame. Quel rapport entre une tricherie dans un jeu d'enfant, des guerres et des massacres ? Du reste, n'avez-vous pas reçu jadis le futur roi Hardclyde ? Voici un criminel autrement sanguinaire que qu'elle.
Chevalier, il y a guerre et guerre. Les plus horribles furent l'œuvre d'un demi-sang. J'espère que cela vous éclaire sur mes raisons de vous confier ce jeune vaurien.
En aucun cas, dame. Je suis toujours en plein brouillard.
La licendière poussa un soupir teinté de dédain.
C'est votre histoire autant que la mienne,
s'agaça-t-elle.
Comme vous êtes oublieux, vous autres humains. La tragédie n'est pas si ancienne. Le fondateur de votre culte du desséché, nommé Okan dans vos traditions, et Sinared dans les nôtres, était un sang mêlé qui devint une malédiction pour l'un et l'autre peuple dont il était issu. D'où ma défiance pour ce garçon. Craignez qu'il en vienne à se prendre pour un élu.
La réplique, cette fois, suscita une réelle surprise chez le chevalier. Le rapprochement entre son page effronté et la figure légendaire du prophète Okan lui apparut si saugrenu qu'il en écarquilla les yeux. Il finit par secouer la tête avec scepticisme.
« Qu'elle ne manque ni de vilains défauts ni de réelles qualités, observa-t-il, et ses mauvais penchants nécessitent de le surveiller étroitement. » Ce qui pourrait donner raison à vos craintes, mais de là à voir en lui je ne sais quel visionnaire ou conquérant. Non, dame, vous voyez le mal plus noir qu'il ne l'est. Elle est un garçon faux et parfois cruel, mais n'est-ce pas fréquent chez certains enfants? Pour autant, tous ne deviennent pas des tyrans ou des tortionnaires.
La dame lui répondit par une moue charmante.
« Les vôtres ont un dicton éloquent. Qui vole un œuf, vole un bœuf, si ma mémoire est bonne. Or, votre page est un garnement que ni les mensonges ni les larcins ne chiffonnent. Si jamais il atteint l'âge d'homme, sa vilenie s'épanouira à proportion, si bien qu'on écrira une somme de ses brigandages, félonies et trahisons.
Sachez que je lui tiens étroitement la bride et que je me flatte, à la longue, d'inculquer quelques valeurs à cette âme rétive.
Constatez-vous de réels progrès? Le scélérat est-il capable de s'amender? Ou dissimule-t-il ses méfaits? Tenez, il est assez simple de le vérifier.
D'un geste gracieux, la licendière montra la cassette au rubis cordiforme et expliqua
« Ce joli coffret va nous instruire. Je vous l'ai dit, je compte vous offrir ce cadeau. La politesse doit interdire à d'autres hôtes de toucher à ce bibelot. Le garçon s'en est-il abstenu? Ou a-t-il déjà fouillé ce que je vous destine? Quand il croit qu'il ne peut être vu, Cède-t-il à une curiosité clandestine? Il suffit d'un charme de voyance et nous saurons s'il a commis une indiscrétion. La proposition de la dame troubla le chevalier. Que la conversation revint rouler sur le précieux reliquaire qu'il avait failli fouiller, ranimait son malaise. Quoique la cassette lui fût destinée, il avait l'impression d'avoir été pris en faute et ne se sentait pas légitime pour blâmer son page devant la fée. S'il a commis pareille indélicatesse, c'est une faute, convint Edan. Elle est toutefois vénielle, car qu'elle étant mon serviteur, tous mes effets lui sont accessibles. On ne peut se fonder sur pareille vétille pour en conclure qu'il est foncièrement malhonnête. Même le valet le plus loyal peut se montrer indiscret. Le pardonneriez-vous par avance? S'enquit la Lysandière avec un rien d'ironie. Vous avez donc déjà un avis sur la question?
Vous avez raison, dame. Je le soupçonne d'y avoir mis le nez.
Et que croyez-vous qu'il a trouvé?
Je l'ignore, dame. Il ne me l'a pas dit. Et je n'ai pas regardé.
Mais le chevalier tint ce propos avec une réticence qui trahissait son scrupule. Sans doute estimait-il qu'il n'exprimait qu'une demi-vérité, car il avait encore dans l'oreille l'avertissement du page. « À votre place, je n'ouvrirai pas cette boîte. » La Lysandière, qui ne le quittait pas des yeux, semblait lire en lui à livre ouvert, ce qui ne fit qu'accentuer l'embarras du sire de Vaumacelle. « Eh bien, n'avez-vous pas envie de le découvrir ? »
murmura-t-elle. Après la conversation que nous venons d'avoir, je ne suis pas sûr d'en être encore digne,
éluda-t-il. Ce cadeau va nous réconcilier,
susurra la dame sur un ton insistant.
Sautez le pas. Faites-moi le plaisir de l'ouvrir.
Il était impossible d'atermoyer davantage.
Le sire de Vaumacelle avait conscience qu'en donnant l'impression de refuser ce présent, il raviverait la querelle.
Il se rapprocha donc de la cassette. L'argent y était à présent si terni que le berceau de roses et d'épines avait pris une noirceur de suie, où les cœurs de rubis brasillaient d'un feu mal éteint. Posant les mains sur le métal orfévré, il sentit un froid insidieux engourdir ses doigts, puis se diffuser dans ses paumes et ses poignets. Une jolie clé, dont l'anneau était en forme de rose, se trouvait déjà insérée dans la serrure. Elle tourna sans effort, et le chevalier souleva le couvercle. L'intérieur de la cassette était capitonné. À première vue, il ne contenait qu'un carré de soie tout brodé de passereaux colorés, plusieurs fois replié sur lui-même. Comme Edan considérait cette étoffe, un peu perplexe, la Lysandière reprit à mi-voix. « L'objet est d'une merveilleuse délicatesse. C'est un emblème de notre amour. J'ai pris soin de l'emballer avec grande tendresse. » Puisque le cadeau était enveloppé, le chevalier sortit la soierie. Elle était si légère qu'il eut l'impression qu'il n'avait que du tissu en main. Mais il crut sentir un rembourrage un peu flasque sous le satin. Il déplia avec précaution le paquet jusqu'à y découvrir une petite forme inerte. Dans ce linceul de soie lustré reposait un rossignol.
À première vue, il aurait pu paraître endormi, avec sa petite tête abandonnée et une aile entr'ouverte. Mais son œil creux, son jabot immobile et ses pattes recroquevillées ne laissaient planer aucune équivoque. L'oiseau était mort. Le sire de Vaumacelle retint son souffle, frappé par ce mauvais présage avant même de l'avoir compris. « Il est au-delà de tout secours, » fit mine de s'apitoyer la fée. « Est-ce bien gênant? Vous le chérirez malgré tout ?»
Edan demeurait immobile et quoi, n'osant demander ce que signifiait cette mauvaise plaisanterie. Il scrutait la bestiole crevée, répugnant même à la couvrir. Il espérait encore confusément que ce n'était qu'une fantaisie, un petit tour de magie, et que l'oiseau allait soudain se réveiller et s'enfuir à tire-d'aile. Mais d'instant en instant, le passereau pesait de plus en plus lourd dans sa paume, accablé par une tristesse définitive.
« Contemplez donc votre trahison !» siffla la dame. « Et vous avez eu le front de jouer les jaloux. »
Que répondre à cela? Le chevalier eut la tentation de broyer l'oiseau mort dans son poing pour sceller sa perte en rompant la fragile carcasse. Il s'en abstint cependant, en mitoufla le rossignol dans son joli suaire avant de le remettre dans sa chasse. Il y mit un grand soin, comme si cette dévotion funèbre pouvait encore retarder l'inévitable, cherchant en vain quelque argument pour ne pas perdre pied.
« Dame, » finit-il par murmurer en levant des yeux humides sur la fée, « rien n'a d'importance, hormis vous. »
Ces mots lui valurent un éclat de rire fielleux, qui se répercuta sous le ciel de tente comme sous les voûtes d'un temple. La lissandière crut en majesté dans le pavillon qui sombrait dans la nuit. Ses yeux brûlaient à présent d'un feu vert. Ses bijoux palpitaient de la nébulosité des lampyres, tandis que le brocart de sa robe, dont le fil d'or se transformait en pullulement d'arachnides dorés, se moirait de reflets fantastiques.
« Quoi? C'est tout? Pas d'autre explication ?»
feula-t-elle.
« Vous me bafouez? Et ce serait sans conséquence ?»
« J'ignore ce que l'on vous a dit, ou ce que vous croyez savoir, » répondit sourdement le chevalier. « Apprenez que les accusations que l'on a portées contre moi et contre la duchesse Odéarde étaient des calomnies. J'ai défendu ses couleurs pour l'honneur, et si je lui ai jadis fait la cour, c'était par jeu, et non par inclination. Nous étions innocents des infamies que l'on nous a imputées, et c'est autant pour réparer mon honneur que le sien que je suis revenu dans le duché. »
Il marqua une brève hésitation, puis poursuivit avec moins d'assurance.
« Sans doute avez-vous deviné ce qui s'est passé à Vert. Je vous le dis tout net, ce n'était pas mon initiative. La duchesse ne m'aime pas. En fait, elle me tient grief de sa déchéance. Elle m'a embrassé pour me nuire. Elle a d'ailleurs réussi, au-delà de ce qu'elle a pu manigancer, car, en vous ayant déçu, je suis brisé plus sûrement par votre courroux que par une haute cour de justice. »
La dame n'eut pas l'air d'accorder une oreille très attentive à ce propos. Elle fit mine de le balayer d'un rapide geste de la main.
« Quel piteux verbiage que voilà » moqua-t-elle.
« Votre plaidoirie manque vraiment de clairvoyance.
Je m'en voudrais de vous dire quelque chose qui ne fût pas la vérité.
Me croyez-vous sotte à ce point-là ?
Vous êtes au contraire si pénétrante qu'il serait non seulement indigne, mais également stupide de chercher à dissimuler. »
La fée lâcha un soupir exaspéré et, pleine d'animosité, lâcha sur un ton coupant.
« Arrêtez, je vous prie, de vous ridiculiser.
Vous me prêtez vos propres bassesses, alors que mes sentiments en sont fort éloignés. Qu'importe vos coupables faiblesses? Pour quelques jupons croisés au hasard des chemins, j'en baille d'ennui, mon pauvre ami. »
Le chevalier ne sut d'abord que répondre à cette sortie.
La dame prêchait-elle le faux pour le pousser à se découvrir davantage? Ou méprisait-elle vraiment la constance?
Si la liaison qu'on m'a prêtée avec la duchesse Odéhard vous laisse indifférente, finit-il par demander « Quelle faute excite votre colère ?»«
Certainement pas un ou deux médiocres béguins. » »«
J'aurais juré que vous m'aimiez plus que cela. » »«
Joueriez-vous les simples d'esprit ? » ?»« Ou me croyez-vous aussi sotte qu'une pucelle ?» Comment, dans tous vos vagabondages, n'auriez-vous pas lutiné d'accorte demoiselle? Votre prestance et votre équipage vous ont forcément valu de galantes fredaines, peu me chaud cet oiseux badinage. La jeunesse est tôt fanée chez les dames humaines, alors que la mienne est éternelle. Toutes vos passades finissent par s'étioler, tandis que je reste toujours belle. Par inconstance, vous ne m'aimez que davantage, déçu chaque fois par mes rivales et toujours plus soumis par votre libertinage. »
Piqué par ces sarcasmes, le sire de Vaumacelle se redressa de toute sa taille. « Est-ce là l'opinion que vous vous faites de ma personne ? » s'écria-t-il. « Et si telle est votre conception de la loyauté, vous accordez-vous les mêmes licences ? Que celle que vous me prêtez.
Me prenez-vous pour votre vassal, pour m'adresser de si impertinentes questions? Les poseriez-vous à la duchesse? Ou paraîtrais-je à vos yeux de moindre condition?
Mais si vous n'êtes point jalouse des liens que j'ai avec cette haute dame, pourquoi me tenir grief de la servir?
Car c'est une charogne perverse! Une réprobation de bon aloi se peignit sur les traits du chevalier.
« Vous ne m'avez point habitué à ce langage, dame. »«
Parce que vous croyez que j'ai la langue injurieuse, ce qui aime entendre de travers. Vous vous êtes lié à une morte amoureuse récemment revenue des enfers. »
Ces mots avaient été crachés sur un tel ton d'exécration qu'Edan, accusant le coup, eut toutes les peines du monde à soutenir le regard de la fée.
« Que vos conquêtes d'un jour soient fraîches et pimpantes, » siffla la dame, « je puis fort bien m'en accommoder. Mais que vous alliez étreindre une morte vivante, c'est plus que je puis en supporter. Que vous ayez le front de me prendre dans vos bras avec des penchants si dépravés me suffoque d'indignation autant que d'effroi. »
Je ne sais quelles horreurs on a pu vous raconter, repartit le chevalier. Mais il s'agit encore de calomnie. La duchesse a certes été grièvement blessée, mais elle était en bonne voie de guérison quand je l'ai quittée. Quelle opinion détestable vous vous faites de moi, si vous accordez du crédit à de telles ignominies.
On vous calomnie? En vérité?
Au moment même où elle jetait ces paroles, la fée s'était levée, auréolée d'une luminosité glauque. Et en un instant, elle se trouvait face à Edan, proche à le toucher. Le frôlement de son corps, l'esprit grisant de son parfum, ébranlèrent le chevalier plus sûrement qu'un assaut. Mais la Lysandière, tout en exerçant sur lui le prestige de son immense regard, fronçait le nez avec dégoût.
« Je sens encore sur vous les remugles d'un parfum fait de camphre, de myrrhe et de menthe qui sert à embaumer les défunts, »
fulmina-t-elle. « Les faveurs de cette revenante ont gâté vos baisers avec un froid de tombeau. » Du bout des doigts, la dame écarta Edan. Quoique la pression parût presque imperceptible, le chevalier se sentit repoussé par une force irrésistible, et eut l'impression de chuter au fond d'un puits. Sans avoir bougé, il fut rejeté à l'autre bout du pavillon qui s'était démesurément allongé, jusqu'à prendre les proportions d'une salle monumentale. Autour du chevalier, le chapiteau soudain vertigineux se fondait dans les ténèbres, tandis que, sur les poteaux et les étoffes, il devinait le frémissement presque inaudible de milliers de pattes minuscules. Par réflexe,
Il ôta de son visage la caresse soyeuse des arentelles.
« De grâce, dame, ne m'abandonnez pas !»
s'écria-t-il dans un accès de détresse. Sa voix résonna comme s'il était tombé au fond d'un gouffre. Très loin, presque hors de portée, la fée rayonnait encore dans cette nuit opaque. Elle se dressait dédaigneuse et fière, debout devant son trône en bois de rose dont le haut dossier, le siège et les accoudoirs commençaient à bourgeonner d'épines et de fleurs vénéneuses. « Vous osez encore m'implorer ?» s'offusqua l'enchanteresse.
« Si vous me rejetez, dame, vous me condamnez à un sort pire que la mort. Vous ferez de moi une âme en peine.
« Ah, cessez donc vos croassements, vilain corbeau !»«
Je me tairai. Je suis même prêt à faire vœu de silence. Mais seulement si vous me pardonnez. Accordez-moi au moins de demeurer muet d'admiration en votre présence. »
Un ricanement malveillant rebondit dans les vastitudes obscures. « Voici un souhait fort aventuré. J'aurai plus d'un tour dans mon sac pour vous prendre au mot. »
J'avouerai tout ce que vous voudrez, même ce que j'ignore encore. Sans doute ai-je été aveuglé, ou me suis-je menti à moi-même.
Vous saviez où vous étiez tombé. Ameline vous a alerté si tôt dans le château.
Ainsi c'est Sir Ameline qui vous a rapporté ses alarmes. Mais il n'a pas rencontré la duchesse. Il peut y avoir malentendu.
Suffit !
Il n'y a pas de malentendu qui tienne. Sur qui d'autre aurait pu s'exercer cette ignoble nécromancie dessicatorienne?
Il est vrai que la duchesse est passée pour morte. Toutefois, les prêtres, appelés pour lui donner le viatique, ont constaté qu'elle était toujours en vie et sont parvenus à la ranimer.
Ces mots suscitèrent de nouveau un rire sinistre.
« Il semble que nous tombions d'accord, »
railla la Lysandière. Ces sectateurs détraqués l'ont remise sur pied. Au choc de se trouver repoussé, et à l'accent acrimonieux de la dame, se conjuguait dans l'âme éperdue du chevalier l'humiliation d'être moins honni pour son infidélité que pour une faute dont il était inconscient. Les doutes l'assaillirent. Il finit par nourrir contre lui-même les soupçons d'une réelle dépravation. N'avait-il pas deviné l'état réel de la duchesse? Les signes n'avaient-ils pas été éloquents? Et le chevalier Hopi, ne l'avait-il pas prévenu? Mais dans un dernier sursaut de fierté, il invoqua un argument d'une autre nature pour se justifier.
« Moi aussi je suis toujours de ce monde, »
observa-t-il.
« Or, je devrais avoir rejoint mon dernier séjour depuis longtemps. » Quelle différence avec la duchesse sauvée d'un attentat? J'ai moi-même essuyé plus d'une blessure mortelle.
Vous avez vraiment perdu le nord, s'aigrit la dame. Vous confondez ce qui ne peut être comparé. C'est du sang qui coule dans vos veines, non de liquor. Un souffle vif enfle votre sein au lieu d'une putride gangrène. Vous êtes réchauffé par le soleil du matin, au lieu d'en être martyrisé. »
Eddan ne put que se rendre à ses raisons. Mais cela n'apaisa point la colère de l'enchanteresse pour autant.
« Quoi? Ne suis-je à vos yeux qu'une vulgaire sorcière? Une adoratrice de charniers? Une goule qui se pourvoit dans les ossuaires ?»
Le chevalier s'en défendit, l'expression décomposée.
Ma magie est autrement sacrée. Mon art donne longue vie et non sa parodie. J'ai retissé votre destinée en lui restituant l'originelle harmonie. Votre rose a été bouturée dans l'étreillage secret de mon jardin des cœurs. Mes plantes ont l'éclat de vos vertus. Votre vie s'abreuve de la sève de mes fleurs. Par quel rapprochement saugrenu pouvez-vous associer votre sort à la non-mort ?
Il émanait désormais de la fée lointaine, un halo de menaces qui la nimbait telle la lumière vitreuse précédant les chutes de grêle.
« Le don que je vous ai accordé n'a rien à voir avec les sanis et les cruores.
Je vous octroie la vitalité revivissante de mes rosiers les plus anciens. J'use d'un pouvoir antagonique aux dogmes dénaturés des desiccatoriens et à leurs rites nécromantiques. En revanche, la créature que vous servez se trouve enchaînée à son cadavre. Car ceux que des sectateurs impies ont ranimés voient leur manne déloger des havres où ils devaient trouver l'apaisement et l'oubli. Rappelés dans un corps pourrissant, ils sont contraints d'accomplir des rituels maudits pour obvier au dépérissement. Telle est celle que vous avez élue pour maîtresse. Une âme perdue, un corps stérile, une larve sinistre aux obsessions vengeresses, objet de vos amours nécrophiles.
La figure de la licendière s'était aiguisée jusqu'à exprimer la cruauté d'un grand rapace. Chacune de ses paroles frappait à présent Edan avec le mordant d'un coup de couteau. Il vacillait, comme si cette virulence le privait de ses forces, tout en sentant ses jambes, ses mains, ses poignets et jusqu'à son visage caressés par des soies légères qui menaçaient de l'entoiler.
« J'ai manqué de clairvoyance, dame, »
se soumit-il.
Blâmez-moi, condamnez-moi, châtiez-moi, mais de grâce, ne me rejetez pas. »
Cette reddition n'inspira qu'un rictus de dédain à l'enchanteresse.
« Ne m'attribuez point le fruit de vos turpitudes, » siffla-t-elle,
« car c'est vous qui avez succombé aux funèbres séductions de la décrépitude.
Hélas, j'ai été abusé, ah, dame. S'il me reste un espoir de me racheter, révélez ce que vous attendez de moi. »
Oh, vous rachetez, en vérité.
Le ton sur lequel elle avait lâché ces mots était si lourd de scepticisme que le chevalier tomba à genoux.
Je vous le jure, dame, balbutia-t-il, je ferai tout ce que vous attendrez de moi pour réparer mon erreur. Et restez digne de votre faveur. »
Une moue méprisante aux lèvres, la licendière fit mine de se détourner. « N'avez-vous nulle idée de ce qu'on attend de vous ? » lâcha-t-elle froidement.
« Je suis au désespoir de vous avoir déplu. Me voici dans un tel état que je ne sais plus raisonner. »
C'est pourtant facile à deviner. « Vous ne voyez pas ? Mon pauvre ami, reprenez-vous. »
« J'abjure tout autre amour que celui que j'ai toujours eu pour vous. Je le fais avec joie, parce que je ne varie pas. Je n'ai jamais aimé la duchesse. »
« Quel gage d'amour époustouflant !» railla l'enchanteresse.
« Si vous doutez toujours de moi, commandez, dame. »
« Commandez. »
Et j'exécuterai. »
Une lueur d'intérêt dansa dans les yeux de la fée. « Prenez garde, chevalier. On ne peut se dédire de présomptueux engagements.
Je préfère mourir 100 fois de présomption plutôt que survivre à votre mépris. »
Ces paroles téméraires ranimèrent un semblant d'espoir dans l'âme du sire de Vaumacel, car soudain la licendière s'était rapprochée. Mais le pavillon ténébreux avait toujours les proportions d'un immense palais, et la fée, peut-être parce qu'elle dominait le chevalier à genoux, penchait sur lui telle une nuée d'orage.
Réfléchissez. Un sacrifice devrait suffire.
Ma vie repose déjà entre vos mains. Que voulez-vous que je vous offre de plus ? Ma réputation, mon honneur.
Voici une offrande fort brumeuse.
Vous attendez de moi que j'abandonne le service de la duchesse. Comment pourrait-il en aller autrement? En me conformant à votre désir, je serais perdu de réputation dans toute la noblesse.
Est-ce là tout? Vous vous arrêtez à mi-chemin. J'attends une action plus courageuse.
Malgré son trouble, le chevalier comprit sur quel terrain l'enchanteresse voulait l'entraîner. Mais l'initiative lui parut si infamante qu'en dépit de sa passion, il ne put se résoudre à l'envisager. Alors, plutôt que d'évoquer la possibilité d'une pareille indignité, il préféra lancer l'idée d'épreuves extravagantes dont il était douteux qu'il pût sortir vivant.
« Voulez-vous faire du comte de Kimark votre obligé ?»
s'exclama-t-il avec fièvre.
« Envoyez-moi délivrer son fils. Je pourrais défier publiquement le champion du roi Hartclyde, ce Drott, qui a tenu le pont d'Aberbechan contre les troupes du Cal, en faisant du seigneur Claudas l'enjeu du duel. Ou je pourrais même échanger Claudas contre ma personne. Si je révèle à Ferbassac la nature des liens qui nous unissent, vous et moi, peut-être aurais-je autant de valeur à ses yeux que le malheureux devin de Belcastel. »
Ces propositions, toutefois, ne soulevèrent nul enthousiasme chez la dame. Contre Carré Ferbassac ne m'intéresse en rien, répliqua-t-elle avec ennui. Au mieux, le roi vous rira au nez. Au pire, il vous écoutera et vous dupera. Vous n'en serez pas plus avancé.
Vous lui êtes plus attaché qu'à moi,
se plaignit le chevalier avec amertume. N'ayant pas vos scrupules, il est fait d'un autre bois.
Hélas, je n'entends que trop bien la réparation que vous attendez de moi. Mais retourner mon allégeance, prendre le parti du duc, serait une impardonnable félonie.
Seigneur, quelle idée insensée! À la cour, qui pourrait croire à votre ralliement? Devenu un objet de risée, vous n'échapperez pas à la geôle pour autant. Comptez-vous me prouver votre amour en croupissant sottement au fond d'une prison?
D'un geste dédaigneux, elle écarta cette hypothèse et non sans une cruelle gourmandise, enchaîna aussitôt, « Puisqu'il faut le dire sans détour, j'attends de vous une plus utile contrition, démontrez-moi votre repentir, faites disparaître votre défunte maîtresse. Vous parviendrez peut-être à fléchir mon courroux quand vous aurez abattu la duchesse. »
Les épaules d'Edan s'affaissèrent à ces mots.
« Je ne saurais commettre une telle forfaiture, »
protesta-t-il.
« Ce serait manquer à ma parole. »«
Et à moi ? N'avez-vous pas manqué ?
Jamais je n'ai envisagé de retourner les armes contre vous. »«
Je veux surtout que vous purifiez une souillure. »«
C'est à moi de payer pour la faute que j'ai commise, non la duchesse. » Exiger de moi que je lui fasse du tort pour accroître mon châtiment n'est plus justice, mais vengeance.
Justice ? Mais je veux me venger. Je vous soumets à la pénitence la plus dure. Brûlez qui vous avez embrassé.
Je vous en conjure, au nom du bonheur que vous m'avez donné. Ne me contraignez point d'un crime aussi abominable. Comment l'amour que j'ai pour vous pourrait-il survivre à un acte pareil ?
Considérant vos penchants, un amour mort-vivant ne saurait guère vous rebuter.
Dame, si vous avez ravi mon cœur, j'ai donné ma foi à la duchesse. Me forcer à la renier reviendrait à anéantir la droiture qui m'a distingué à vos yeux.
Même suppliant, je vous trouve fort outrecuidant, vous voici toujours préoccupé par l'opinion que vous avez de votre personne. Abaissez-vous donc, chevalier. On dirait qu'avoir à vous parjurer vous étonne plus qu'avoir embrassé un lémur. Vous continuez à m'insulter. Jadis, au cours de vos tournoyantes aventures, je sais que vous avez accepté de combattre au pis pour les beaux yeux de ma rivale. Vous vous êtes donc déshonoré pour elle. Ne serais-je même pas son égal ?
Au cours de ce maudit tournoi, il ne s'agissait que de m'incliner. Mais vous me demandez de me perdre.
N'existe-t-il pas meilleur moyen, en vous perdant pour tous, de vous garder tout à moi ?
pour être encore aimé de vous, vous me commandez de devenir indigne de l'être.
Eh bien, décidez-vous à la fin. Voulez-vous vous racheter? Ou faut-il rompre là?
Complètement désemparé, le chevalier se tassa un peu plus sur lui-même. Il saisit sa tête à deux mains, l'expression hagarde, visiblement déchirée par le dilemme.
Et puis, une humeur sombre parut l'envahir et lui redonna quelque contenance. Osant à nouveau affronter le regard émeraude de la fée, il balbutia
« Si j'agis selon votre bon plaisir, me pardonnerez-vous ?»«
Accordez-moi ce gage d'amour, »
souffla la dame dans un ronronnement de grand fauve.
« Il n'appartient qu'à vous de reconquérir mon cœur. »
Le chevalier aux épines ferma les yeux, un masque douloureux creusant sa belle figure.
« Eh bien, soit, céda-t-il, je remplirai vos volontés. »
Il inspira difficilement, comme s'il avait la poitrine oppressée, puis chuchota sur un ton épouvanté.
« Je traiterai